Un moment pour la Terre, c'est tout de suite sur Fréquence Mistral, en partenariat avec France Nature Environnement 04. Trois invités aujourd'hui pour cette émission, enfin trois invités, c'est vous qui faites l'émission. Jeannine Brochier de France Nature Environnement 04, accompagnée de Mireille Provençal et François Provençal. Tous deux aussi de France Nature Environnement, et on verra tout à l'heure aussi, on parlera du collectif Ubaye Auverdon. Bonjour.
Bonjour, je suis Jeannine Brochier et j'appartiens au mouvement FN04 qui fête ses 50 ans cette année en septembre au Metz. On est hébergé par la mairie des Metz et on est très contents. Avant, FN04 s'appelait UDVN04 et c'était une association très importante puisqu'on dure depuis 50 ans. On est une fédération FN France, FN PACA, FN04 départementale, et tous les départements de PACA ont cette association très importante et très active. C'est une longue histoire et je veux remercier les anciens et les nouveaux, parce que si ça a continué, c'est pas que, parce que les anciens étaient remarquables et les nouveaux vraiment actifs, et c'est très intéressant, notre histoire est très intéressante. On a actuellement 3 salariés et beaucoup de stagiaires divers qui donnent leur jeunesse et leur énergie. Et on a beaucoup de projets ambitieux et de positions difficiles à prendre, mais qu'on prend quand même parce qu'on veut vraiment défendre l'environnement. On a fait beaucoup de choses importantes et en ce moment, notre équipe de bénévoles et tous les membres de notre association nous transmettent l'énergie nécessaire pour gérer l'avenir. On a beaucoup de travail et on a beaucoup de sympathisants, et les anciens et les nouveaux sont autour de nous, et je suis très contente d'accueillir aujourd'hui les Provençales qui font partie du département Est et on va parler du ski de demain et évidemment du changement climatique qui est très à la mode, malheureusement, en ce moment. Je passe la parole au Provençal.
Alors, Provençal, c'est le nom de famille, hein, puisque il n'y a pas de faute d'accord avec les Provençaux, ça n'a rien à voir. Bonjour, donc, à Mireille et François Provençal.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, nous représentons ici, en fait, un collectif qui s'intitule Collectif Ubaye Auverdon, avec un sous-titre qui est « Quel avenir pour nos vallées, pour une montagne durable ?». Ce collectif a été créé l'année dernière, en 2022, et il réunit des habitants des deux vallées, l'Ubaye et le Auverdon, qui sont concernés par les projets d'aménagement de leurs stations de ski respectives, qui sont regroupés dans ce qu'il est convenu d'appeler dans la région l'espace lumière, qui regroupe donc la Foudalos, le Sénius et Pralou, ainsi que les stations de Sauze et Super Sauze. Toutes ces communes sont impliquées par les projets financés sur fonds publics dans le cadre du plan Avenir Montagne. Et notre collectif, en fait, souhaite que ces projets, qui sont des projets importants avec des financements régionaux considérables, prennent en compte le réchauffement climatique et la protection des environnements montagnards.
Alors, je pourrais ajouter une chose, c'est quand même que ce collectif a été créé à la suite d'un événement un peu particulier qui a fait pas mal de bruit l'an dernier dans la presse écrite, télévisée, radiophonique, non seulement locale mais nationale, qui était l'installation d'une piste en plastique sur la décision unilatérale du président de la société de gestion de la station. Et cette piste en plastique s'est avérée être un échec absolu, puisque un an après, elle a été démontée. On y reviendra peut-être dessus. Mais c'est elle qui nous a vraiment mobilisés pour la création de ce collectif. Bon, Mireille, peut-être tu continues sur la question du réchauffement climatique.
Oui, oh ben quelques mots sur un sujet qui maintenant commence à être bien connu, entre autres avec la vulgarisation des travaux du Grec Sud, important dans notre région. Donc je rappelle simplement que les Alpes du Sud se réchauffent très vite actuellement. L'Europe d'ailleurs se réchauffe plus vite que le reste du monde, et en Europe c'est les Alpes du Sud qui se réchauffent encore plus vite. Donc on sait par exemple que l'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée dans la région, avec des minimales supérieures de plus de 2 degrés aux moyennes enregistrées et des maximales supérieures à de plus de 3 degrés. Alors c'est considérable. Et contrairement à ce que certains espèrent, il ne faut pas espérer là que ce soit une affaire de cycle climatique, ce qui nous permettrait de revenir en arrière vers des températures plus fraîches. Non, les cycles climatiques ont existé à des échelles de temps qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sur une courbe ascensionnelle continue qui ne fait que débuter et dont il faut absolument tenir compte. Alors, ce réchauffement, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, il donne des choses que tout le monde peut mesurer aujourd'hui. Une réduction de l'épaisseur du manteau neigeux, une durée plus courte également de la présence de la neige en montagne, le fait que la pluie désormais remplace la neige aux altitudes moyennes et même assez hautes, à partir jusqu'à au moins 1800 mètres d'altitude, un décalage des saisons qui fait que la saison hivernale, celle de Noël, traditionnellement dévolue au ski, est très fortement compromise. Et donc, on sait aujourd'hui que seules quelques très rares stations en altitude garderont la possibilité de continuer à skier, et continuer à skier sans neige artificielle. Et donc, une des questions que nous nous posons, c'est que s'il n'y a plus assez de neige, doit-on passer systématiquement à de la neige artificielle, avec les problèmes que ça pose en termes d'usage de l'eau et de conflits d'usage autour de cette question de la disponibilité de l'eau? Voilà, c'est très schématiquement esquissé. Les données sont disponibles sur Internet sur le Grec Sud, et donc je convie les auditeurs à s'y rendre simplement. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est celle de ce qu'on a appelé l'or blanc. L'or blanc, c'est-à-dire la neige, qui a fait vivre tant de vallées alpines. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, alors peut-être qu'avant de dire qu'est-ce qu'on fait et de faire des propositions, il faudrait dire quelque chose sur pourquoi l'or blanc aujourd'hui est remis en cause. L'or blanc, c'est pas n'importe quel mot, ça veut dire que ça a rapporté beaucoup d'argent. Le plan neige, qui a été une décision des gouvernements français il y a maintenant 60 ans ou 70 ans, sont partis là-dessus, redévelopper les vallées alpines qui étaient assez archaïques, avec l'arrivée du ski, et donc une sorte de planification, de transformation des Alpes françaises en multipliant les stations de ski. Alors c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez exceptionnel, mais le résultat aujourd'hui, c'est que avec la disparition de la neige, enfin en tout cas sa grande raréfaction, et avec autre chose qui est un certain essoufflement de la pratique du ski, en tout cas la transformation de son public, on arrive au fait que eh bien, ce n'est plus de l'or blanc, c'est à la rigueur du blanc, un peu de blanc restant, mais il n'y a plus d'or. Et le problème, c'est comment est-ce que ces stations qui existent, hein, qui sont des grands ensembles immobiliers, avec beaucoup de gens qui travaillent en hiver, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à les faire subsister s'il n'y a plus d'argent? Parce que ça rapportera beaucoup moins. Donc la question, c'est quand même la transformation économique, sociale, culturelle des stations de ski et des hautes vallées. Alors, je voudrais dire juste quelques mots à propos de cet essoufflement. En tout cas, en ce qui concerne nos stations, c'est une réduction de la clientèle. Le fait que les forfaits sont devenus extrêmement onéreux. Donc pour les jeunes, c'est vraiment très difficile de faire du ski de façon régulière, comme ça a pu être le cas quand nous, on était jeunes. Il y a une stagnation de la clientèle française et un vieillissement de la population des skieurs. Et il y a aussi peut-être une augmentation des touristes, des skieurs étrangers. Peut-être qu'il faut dire aussi que... Alors, l'augmentation des skieurs étrangers, ça veut dire faire venir des gens qui viennent de très loin. Par exemple, nous, on a rencontré des gens qui venaient du Brésil pour skier. Donc ça veut dire prendre l'avion. Donc, enfin, sur un plan, on va dire, écologique un peu simple, c'est pas très, très, c'est pas très raisonnable. Hein. Ensuite, peut-être qu'il faut dire que le ski alpin, lui, c'est lui qui est un peu en déclin. Et par contre, se sont développés le ski de randonnée, la raquette et le ski de fond. Et ça, c'est déjà une orientation vers une pratique de la montagne quand même différente de celle du ski alpin et des investissements, des travaux que nécessite la construction des remontées mécaniques et des pistes.
C'est-à-dire moins de dégradation de la nature aussi par
ben oui, ben le ski de fond ou la raquette, évidemment, il n'y a rien à faire de spécial. Mm-hmm. On met des raquettes mm-hmm. au pied.
Mm-hmm. Oui, vous parlez de dégradation. C'est vrai qu'il suffit de monter en altitude, dans la haute vallée du Verdon ou dans la haute Ubaye, pour constater que l'installation des pistes aujourd'hui, bon, d'une part, bien sûr, ça passe par... ces instruments de transport, de télésièges et autres, qui sont quand même esthétiquement dans le paysage, pas forcément typiquement montagnards. Et surtout, aujourd'hui, les pistes ne sont plus comme elles étaient autrefois, où on aimait bien skier sur les bosses. Ces pistes sont devenues très larges, très planes, ce qui signifie un rabotage par des tractopelles. Alors, le paysage montagnard aujourd'hui, du moins du côté des pistes, c'est tractopelle tout l'été. On aplanit le terrain, on détruit les sols et les prairies. Et c'est vrai qu'on cause des dégâts environnementaux durables, parce que ce sont des milieux fragiles d'altitude qui se reconstituent très lentement. Il y a là un manque de réflexion sur lequel nous invitons vraiment les aménageurs à réfléchir.
Alors peut-être qu'il faut dire un mot de l'enneigement artificiel, parce que c'est quand même la solution qui est avancée par les décideurs aujourd'hui. S'il n'y a plus de neige naturelle, alors on va fabriquer de la neige artificielle. Maintenant, on sait bien faire ça.
Ça consomme alors, beaucoup d'eau, ça, c'est ça?
Alors ça consomme beaucoup d'eau.
Et on est en perte d'eau.
Alors effectivement, ça fait partie de l'affaire. Pour donner une idée des chiffres, pour enneiger un hectare de piste de ski, donc 100 mètres sur 100 mètres, un carré de 100 mètres sur 100 mètres, il faut 4000 mètres cubes d'eau, ce qui est l'équivalent d'à peu près de 100 piscines privées. Un hectare de maïs, lui, donc, de même dimension, 100 mètres sur 100 mètres, consomme 1700 mètres cubes d'eau. Donc ça en consomme à peu près 3 fois plus. Alors, c'est vrai, on nous dira, les pistes de ski, ce n'est pas des immenses étendues. Mais enfin... La question de l'eau qui est plutôt en train de se raréfier, d'une part parce que ayant moins de neige, y a moins d'eau à la fonte des neiges. Hein, déjà. Parce que qui dit enneigement artificiel dit construction de bassines, c'est-à-dire de grandes retenues d'eau qu'on installe dans la montagne et qu'on remplit d'eau quand on peut en disposer. Donc s'il y a moins de neige à la fonte des neiges, déjà, il y a moins de possibilités d'eau. En plus, il y a une raréfaction de la quantité d'eau qui tombe du ciel. Hein. Là, il y a une sécheresse qui s'installe progressivement. Enfin, on a bien vu l'été dernier ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette année un printemps plus pluvieux qui a permis aux grands lacs de barrages de se remplir. Il n'empêche que les nappes n'ont pas retrouvé leur niveau ancien. Donc, l'enneigement artificiel et qui est... À quoi il faut rajouter, en dehors de la question de l'eau, la question de l'électricité, parce qu'il faut des pompes pour pomper l'eau et ensuite disperser l'eau, la pulvériser, la disperser pour que ça fasse de la neige. C'est aussi très consommateur d'énergie. Et donc, bon, il faut... L'énergie, on en dispose, mais ça coûte très cher. Donc, tout ça est très compliqué. L'enneigement artificiel, ce n'est pas une solution généralisable et à très long terme. Donc, ça ne peut pas être une issue.
Alors, moi, je voudrais aussi ajouter deux points. Le premier, c'est que le développement du ski, dans lequel tout le monde a cru, l'or blanc, aboutit en fait à la destruction des activités traditionnelles. Tout ce qui était élevage, agriculture, est très largement en déshérence aujourd'hui. Et c'est vrai que passer à d'autres types d'activités que le ski, lorsqu'on a détruit l'existant, peut poser un problème sur lequel il faut réfléchir. Et le deuxième point, qui me paraît aussi très important, et d'ailleurs qui est aujourd'hui dans le collimateur de la réflexion de très nombreux élus, c'est la question de ce qu'on appelle les lits froids, c'est-à-dire des lits qui sont occupés au maximum quelques semaines, ou mettons 2 à 3 mois par an, en période de ski, qui sont inhabités pendant l'été, qui sont souvent des appartements de, disons, de qualité médiocre, qui ont été construits très vite, hein, c'est le HLM des neiges. Et tout ça, bien sûr, ça imperméabilise les sols. Et aussi, ce sont des bâtiments qui sont très mal entretenus, qui se dégradent et qui posent aux communes aujourd'hui un véritable problème financier, qui est celui de l'entretien de ces innombrables logements, donc en grande partie inhabités la plupart du temps, et qu'on appelle des lits froids. Question non résolue, mais dont je sais que la commune d'Alos et d'autres aussi d'ailleurs commencent à s'en préoccuper. Voilà, alors c'est vrai que face à ce constat, on peut se demander comment faire.
Oui, non, peut-être qu'il faudrait, rajouter que le changement de clientèle, le fait qu'il y ait une clientèle plus aisée qui vienne à la montagne, fait que ces gens-là ne tiennent pas trop à occuper des studios dans des HLM qualifiés de, comme ça. Hein. Parce que je voudrais juste dire que l'essentiel des informations qu'on a, elles viennent d'un document qui a été fait par le conseil départemental en 2020, qui s'appelle le plan master, et qui est un document très élaboré où tous ces constats-là sont faits. Et donc, aujourd'hui, ce qui se construit, c'est des beaux chalets très coûteux. En tout cas, à la Foudalos, c'est comme ça. Et ça s'accompagne, parce que construire un chalet, ça demande plus de terrain que construire 100 studios, enfin, ou autant. Et donc, il y a la question de l'artificialisation des sols, qui est un vrai problème, parce que ce sont des prairies hein, qui sont utilisées pour construire des petites résidences ou des chalets de luxe. Et ces prairies, en fait, traditionnellement, elles servaient à l'élevage. Et donc, il y a des éleveurs qui voudraient bien s'installer dans la vallée du Haut-Verdon et qui ne peuvent pas s'installer parce que le terrain est trop cher. Et donc, les propriétaires, eh bien, le vendent à des promoteurs plutôt que aller vendre à des agriculteurs. Et il n'y a pas vraiment de politique de protection pour l'instant. Il y a la grande loi sur l'artificialisation des sols, zéro artificialisation en 2050. On sait que cette loi a été votée, mais que beaucoup de maires demandent déjà des dérogations jusqu'où elle sera appliquée. Et je pense que en haute montagne, c'est vraiment, il faut être très très vigilant sur cette question.
Est-ce qu'on fait une pause musicale? Vous avez choisi donc deux chansons par laquelle on commence.
Je sais pas, la neige.
La neige par Claude Nougaro. Allez, ouais. C'est tout de suite.
Oh, la neige. Regarde la neige qui tombe. Cimetière enchanté, fait de légères tombes. Elle tombe la neige, silencieusement, de toute sa blancheur, d'un noir éblouissant. La neige, les yeux les mieux ouverts, sont encore des paupières, et Dieu, pour le prouver, fait pleuvoir sa lumière glacée, ardente cependant, cœur de braise tendu, dans une main d'argent. La neige, elle vient de si haut, la chaste damoiselle, que sa forme voilée d'étoiles se constelle. Elle vient de si haut, cette sœur des sapins, cette bombe lactée que lancent les gamins. Elle vient de si haut, la liquide étincelle qu'au sommet de la terre elle brille éternelle. Brandissant son flambeau sur le pic et le roc, comme la liberté dans le port de New York. La neige meneuse de revue aux folies, Stalingrad, descend dans l'escalier des degrés centigrades, empanaché de plumes, négresse en négatif. Elle dansait un palais angélique explosif. Soldat givré, agrippé à son arme, œuf de sang congelé dans un cristal de larmes. Elle danse la neige dans la nuit de Noël autour d'un tank brûlé qu'elle a pris pour chapelle. La neige tout de suite moisson, tout de suite hécatombe. Oh, regarde la neige.
Magnifique chanson de Claude Nougaro. On revient avec Un moment pour la Terre et France Nature Environnement, donc avec François et Mireille Provençal et Janine Brochier.
Alors, reprenons après le constat, quelle proposition ? Madame Bareille s'est exprimée clairement là-dessus. L'été dernier, à la fin de l'été, elle a dit « Il s'agit désormais de favoriser la diversification et la montagne des quatre saisons. » Et effectivement, nous pensons comme elle que c'est là-dessus qu'il faut penser et se diriger. Et c'est vrai que, dans ce contexte, l'idée avancée par le président de la région de faire les Jeux Olympiques d'hiver en 2034 ou 2038 dans les Alpes du Sud ne nous paraît pas soutenable. On ne sait pas où on en sera pour la neige à ce moment-là. Ça sera sans doute beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc, ça va signifier très certainement ne pas se contenter des aménagements actuels, mais remonter vers le haut, c'est-à-dire vers la neige plus constante des aménagements, donc faire le choix de dégrader encore plus des espaces fragiles. Et notre collectif prend clairement position contre ce projet de Jeux Olympiques. Il y a autre chose à faire.
Oui, alors peut-être qu'il faut dire que la région a programmé 200 millions d'euros pour la montagne, dont 100 millions pour les stations et 100 millions pour les vallées et les villages. Donc, ce sont des sommes très importantes. Alors, à quoi peuvent-elles servir? Alors, moi je retiens, avant de donner faire des propositions plus précises, je retiens et je reviens sur une chose qui me paraît essentielle. La première chose, c'est la concertation. Et là-dessus, le président des Alpes du Sud de Domaine Skiable de France, qui est par ailleurs directeur de la station de la Foudalos, disait en 2021, la démarche induite par le respect des éco-engagements. Éco-engagement, c'est son mot, ne sera possible que si tout le monde se met autour de la table. Et il dit, les élus locaux, les écoles de ski, les hôteliers, les hébergeurs, tous les socioprofessionnels, les transporteurs, les associations de défense de l'environnement et les citoyens, qu'ils soient habitants, résidents ou vacanciers. Or, il s'avère que un an après ça, la piste en plastique a été construite dans la plus totale opacité. Il faut quand même que les décideurs se mettent d'accord entre eux. Ou on concerte, ou on ne concerte pas. Et si on ne concerte pas, il faut le dire. Mais il ne faut pas faire des déclarations. Donc, concertation, grand 1. Et une autre règle essentielle, c'est ne pas dégrader l'environnement, qui est déjà assez dégradé. Ce qui reste, c'est fait pour, c'est pour les générations à venir. Nous, on a un âge tel que nous avons des petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils auront en 2100 ceux qui sont nés en 2000 et qui auront 70 ans en 2070, quelle montagne ils auront? Ça me paraît quand même une réflexion que n'importe qui a dessous d'idées doit pouvoir avoir. Bon, peut-être que Mireille, maintenant, tu pourrais évoquer les propositions.
Oui, alors les propositions sont ouvertes. Parce qu'on n'a pas la clé de tout et forcément nos idées ne sont pas les seules à être les bonnes idées. Mais ce qui nous paraît important quand même, c'est que la montagne soit aussi un lieu où on peut vivre toute l'année, pas seulement en hiver. Donc développer des activités durables et il y a beaucoup d'idées qui peuvent être émises dans ce domaine. Par exemple, revivifier les activités traditionnelles, agricoles et pastorales. Actuellement, ce qui est vivant, c'est la transhumance. C'est bien, c'est important. Il faut quand même faire très attention aussi à la question du surpâturage, c'est-à-dire de ne pas mettre trop de bêtes à la fois sur les prairies. Mais c'est, nous le savons, une question qui est travaillée actuellement sérieusement par les bergers et par les chambres d'agriculture. Mais outre la transhumance, eh bien, il faut remettre sur pied les vaches, l'activité laitière, la production des fromages qui a longtemps existé, avec tout ce qui tourne autour de la consommation, on va dire, locale, le fait de des circuits, ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts, tout simplement. Hein, pendant longtemps, je sais qu'à Alos, la fromagerie remarquable de Sainte-Brigitte envoyait ses produits sur la côte, entre Nice et Marseille, très appréciés, et il faudrait envisager de recommencer ce genre de choses. Dans la vallée de l'Ubaye, on produisait des légumes et des fleurs qui étaient aussi appréciés sur la côte. Bref, il y a une recherche à faire et qui commence d'ailleurs à émerger dans un certain nombre de vallées. Les produits, la confiture par exemple. La confiture de l'Ubaye est délicieuse. Ce qu'il faudrait aussi envisager de faire, c'est de redonner leur place aux enfants. Et je pense à la multiplication des classes de neige, mais aussi et surtout peut-être maintenant des classes vertes, avec ces enfants des villes qui ont besoin de faire connaissance avec l'environnement, les fleurs, la faune, la géologie, qu'est-ce que c'est que la montagne. Et ça se met en route de façon très sérieuse. J'ai moi-même participé à une classe verte dans la maison de Rochecline, qui est une très belle institution qui s'est mise en place récemment sur la commune d'Alos et qui accueille nombre de classes vertes de toute la région. Et puis, pensez aussi peut-être à redonner vie au tourisme social. Il y a, combien maintenant, 60 ans, une auberge de jeunesse a vu le jour sur la commune d'Alos, dans la station de la Foudalos. Elle accueillait des jeunes gens des villes désargentées qui faisaient connaissance avec la neige. Mais pourquoi pas reprendre cette idée des campings d'altitude, des maisons des jeunes, des auberges de la jeunesse, ouvrir la montagne aux personnes des villes, pas forcément aux plus riches, mais à tous. Développer des activités simples, la randonnée, réaménager des chemins, ouvrir des maisons du patrimoine, favoriser le VTT, en faisant attention à ne pas trop non plus dégrader la montagne, le canyoning, etc. Il y a beaucoup de choses à faire dans la montagne l'été. Nous avons rencontré récemment le maire d'une petite commune de la Lozère. Alors la Lozère, c'est pas le haut lieu du ski, c'est vrai. Mais on y faisait du ski, on n'en fait plus. Et il nous a dit que le développement des activités estivales remplaçait bien, sur le plan financier, la perte des activités hivernales. Voilà, donc aujourd'hui, il faut imagination, courage et inventivité pour faire de la montagne autre chose que du tout-ski l'hiver.
Oui, peut-être que... alors, en matière d'activité, par exemple, dans la vallée du Haut-Verdon, dans la commune d'Alos, il y a un plan d'eau, mais à la station de la Foue d'Alos, il n'y a pas de piscine. Il y en a plus bas dans la vallée, mais il y en a qui ont été fermées. Voilà, si on veut faire du 4 saisons, il faut que l'été, les gens puissent se baigner. Il faut ouvrir des campings. Il y en a dans la basse vallée, enfin, dans la vallée du Verdon, mais il n'y en a pas dans la haute vallée à Alos, par exemple, ni à la Foue d'Alos. Il n'y a pas de camping. Alors, il y a des grands parkings goudronnés pour installer des camping-cars. Franchement, on fait mieux en matière d'adaptation à la montagne et à l'environnement de la montagne. Alors, ça, c'est pour les activités. On pourrait dire beaucoup de choses. Il y a des très belles expériences, par exemple. Mireille parlait du pastoralisme. L'an dernier, la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence a organisé une journée à la bergerie du Col d'Alos. Et le berger et son aide ont expliqué ce qu'il en était de leur travail, ont montré leurs moutons, parce qu'il y a des brebis de différentes races. Il y avait 200 personnes qui sont venues, parce que les gens s'ennuient l'été. Bon, c'est vrai, la randonnée, c'est très bien, mais tout le monde ne randonne pas. Il faut offrir des activités, mais des choses qui excitent la curiosité et qui ne soient pas de la simple consommation. Je vais prendre un exemple qui est un exemple un peu négatif par la façon dont ça a été réalisé, mais qui montre bien que les gens sont à la recherche de choses qui excitent leur curiosité. Il y a une nuit des étoiles chaque été. Il y a un parking où se garent les voitures en été, qui est un parking herbeux. Bon. Et il y a un monsieur qui s'est installé là avec son télescope. C'est un truc organisé par l'Office du tourisme. Il y avait une centaine de personnes qui faisaient la queue pour regarder les uns après les autres dans le télescope, etc. Eh bien, personne de l'Office du tourisme, ni de nulle part, n'avait demandé aux gens d'enlever leur voiture. Tout ça s'est passé dans un parking bourré de bagnoles. Vous voyez, c'est très simple. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, enfin, des projets qui auraient pu être réalisés, mais qui auraient coûté moins cher et beaucoup moins destructeurs s'il y avait un peu d'attention et un peu de respect des conditions particulières de la montagne et de son environnement. Ça me paraît vraiment très, très utile. Il faudrait que les gens des travaux publics, ceux qui vont avec leur tractopelle et qu'on a pu voir au Col d'Alos, et on peut voir les cicatrices qu'il y a au Col d'Alos, que ces gens-là, ils aient une formation, vous voyez, qu'ils aient des engins d'abord, qu'ils soient adaptés, qu'ils ne soient pas ces énormes tractopelles qu'on voit dans tous les chantiers du monde, et puis qu'eux-mêmes, ils aient une petite formation à ce qu'il en est de l'environnement naturel, un petit peu de la botanique, de la géologie, des choses simples, mais quand même qu'ils sachent sur quelles... qu'ils ne travaillent pas pour réaliser un hypermarché dans la vallée du Var. Voilà. Ça me paraît des choses... C'est simple, hein, mais c'est le plus compliqué à réaliser, je pense. Et ça demande de la concertation pour revenir. Je suis un peu obsédé par la concertation, hein, mais... Je pense que vraiment, là, il y a... Alors, il y a encore autre chose, c'est dynamiser les relations entre les stations et les villages en contrebas. Parce que les stations, bien souvent, c'est ce qu'on appelle, moi en tout cas j'appelle, et beaucoup de gens sont d'accord sur ce terme, des zones grises. C'est-à-dire, c'est des endroits, ça marche 3 mois par an, le reste de l'année, c'est un désert. Nous, on est allé à la Foue d'Alos, alors on est vraiment bien placé pour constater ce qu'il en est de ce désert, qui dure jusqu'au 15-30 juin et qui recommence au 15 septembre. Et dans cette zone grise, on fait je vais dire un peu méchamment, un peu n'importe quoi. Il faut qu'il y ait... Et les gens de la vallée, d'ailleurs, nous disent « Mais nous, on n'y va jamais à la foule d'Alos. » Les gens de Colmar, d'Alos, de Beauvais, de Villars-Colmar, de Thorame. « Mais on n'y va jamais, il n'y a rien à faire là-haut. » Mais nous, par contre, on descend, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Il y a, et après, il faut penser ça au niveau des institutions, au niveau économique, etc. Il faut qu'il y ait un lien vivant entre les stations et les villages en contrebas. Oui, Mireille, tu veux peut-être conclure.
Je crois qu'on arrive au bout. Hein. mais pour vivre toute l'année, il faut améliorer les services publics. Il faut que, si on vit à Alos, si on vit au Sauze, à Josier, il faut avoir sur place des médecins, il faut avoir sur place des écoles, il faut penser au trajet pour les enfants vers les collèges et les lycées. Bref, il faut rendre les choses vivables pour les gens qui sont là toute l'année. C'est un problème global en France. Hein. On sait très bien le manque de
médecins. Les médecins, il n'y en a pas, même voilà. Dans les grandes villes.
Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose pour lequel il faut sans doute faire appel au service de l'État et rendre les stations et les villages habitables toute l'année. Mon mari me fait passer un petit papier, il a bien raison. Il faut défendre aussi le chemin de fer de Provence, voilà, qui est quand même un moyen d'accès aux vallées, aux hautes vallées, du côté de Nice et d'Igne, pour les personnes qui n'ont pas forcément un véhicule. Et c'est aussi un moyen de lutter contre la pollution liée à la trop grande abondance de véhicules privés. Voilà, merci de votre accueil.
Merci. Donc, est-ce que Jeannine Brochier, vous voulez... prenez le micro, voilà.
Je suis très contente de notre entretien parce que François et Mireille Provençal ont porté la parole de France Nature Environnement. Et je remercie Fréquence Mistral parce qu'on commence à être bien habitués à eux. Et c'est très précieux, ce contact est très précieux pour nous. Et ce chantier de la montagne de demain est parti et il faut l'alimenter par des idées et des décisions qui seront suivies des faits.
J'ajoute un mot, rejoignez, soutenez la page Facebook de notre collectif. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur le quotidien et sur les événements. Et on a besoin de vos avis et de votre soutien. Merci.
Donc, je rappelle, c'est le Facebook collectif Ubaye-Auverdon qu'on mettra en lien sur notre site. Et bien sûr, allez voir le site fne04.org pour avoir aussi d'autres informations, des animations proposées par France Nature Environnement tout au long de l'année aussi. Merci à vous. Et puis, vous retrouverez donc cette émission en ligne sur le site de Fréquence Mistral. Bonne journée. Au revoir. On se quitte avec « J'ai planté un chêne » de Gilles Vigneault.
Merci.
J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine. Perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Mais ce sont mes chaînes, perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Le roi et la reine perdront leur manant. Mais l'amour m'enchaîne, perdrai-je ma peine. Le roi et la reine perdront leur manant. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Capitaine sur mon bâtiment, tout en bois de chêne, perdrai-je ma peine?
Serai capitaine sur mon bâtiment, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps?
Planter un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine?
J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps?